Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Initiative solidaire et citoyenne où on a le plaisir de recevoir une personne singulière, Jordan Vial. Bonjour Jordan.
Bonjour Patrick.
Ça fait longtemps que nous nous connaissons.
Oui.
Tu travailles depuis, là aussi, des décennies sur le langage de la conscience.
Plus de 40 ans.
À travers la Kabbalah. Et tu vas nous dire dans cette première émission comment tu as commencé ce chemin assez particulier.
Alors, j'ai des souvenirs qui remontent à peu près à l'âge de 2 ans, quand j'ai vraiment pris conscience que ce que je percevais, ce que j'expérimentais, n'était pas perçu par les autres.
On doit se sentir un petit peu étrangère.
Alors, ça a été un petit peu perturbant, parce que, par exemple, quand je faisais un tout petit mouvement avec ma colonne vertébrale, la table qui était faite de bois, tout d'un coup, je la voyais en molécules vibrantes. Et je ne comprenais pas pourquoi ma main ne passait pas à travers. Donc, je voyais deux matières.
Tu voyais l'infiniment petit.
Je voyais la matière en vibration et je voyais la matière figée. Et je ne me voyais pas tout le temps sous cette même apparence. Donc, la nuit, je pouvais jouer avec cette apparence subtile et voyager, rencontrer des êtres, communiquer, recevoir des enseignements.
Tu sortais de ton corps.
C'était pas vraiment une sortie du corps, parce que j'ai aussi expérimenté la sortie du corps. C'était juste un switch de fréquence. Toc. Comme si je changeais le bouton radio. D'accord ? Mais je croyais que tout le monde était comme ça. Alors j'ai observé mes parents qui se débattaient. C'était des rapatriés d'Algérie qui vivaient dans le stress, dans la peur, dans le manque. Et je me suis dit, bon, ben, c'est normal, eux, ils sont dans leur traumatisme. Ils n'ont pas le temps d'observer tout ça. Ils sont en train de courir pour nous donner à manger. Puis je regardais les autres enfants et je me disais, mais au moins les enfants, ils ne sont pas encore coincés. Et puis ma mère invitait des enfants à la maison et je ne m'y retrouvais pas. Alors je me suis dit, bon, c'est juste que je n'ai pas trouvé les bons. Donc à 2 ans et demi, j'ai fait des pieds et des mains pour aller à l'école. Et j'ai un souvenir extraordinaire de monter cette côte de l'école à Sainte-Livrade, cette école maternelle. Je monte cette côte, ravie, heureuse. Je vais enfin être dans une école de connaissances. Je vais rencontrer des sages qui vont m'initier comme ce que je vis la nuit. Je vais rencontrer des enfants qui ont toutes ces perceptions. Je vais rentrer dans mon monde. Je passe la porte de l'école. Et là, un effondrement. C'est les mêmes. c'est les mêmes que les autres. Je cherche, je regarde, je ne trouve personne. Donc là, j'ai commencé à me dire, oh, il faut que tu te caches. Il faut cacher ça. Parce que sinon, ça va mal se passer. 1 an et demi, 2 ans après, ma mère arrive à faire rapatrier sa mère d'Algérie. Et ma grand-mère était devenue ce qu'on appelle folle à la suite de torture. Elle avait décroché. Une femme d'une élégance folle, d'une éducation extraordinaire, pianiste, artiste, bon. On la met dans un asile psychiatrique. Et je me retrouve à aller rencontrer cette grand-mère dans cet asile psychiatrique. J'ai 3 ans et demi, 4 ans. Et là, je vois un soi-disant fou, parce qu'à l'époque, on disait comme ça, on appelait ces gens-là fous, en train de parler à un mur. Sauf que moi, je vois qu'il ne parle pas à un mur. Je vois à qui il parle. À cette entité subtile avec laquelle il est en train de discuter et même d'essayer de lui proposer une cigarette. Et là, je me dis, ben, je suis folle. T'as intérêt à te cacher encore plus parce que tu vas te retrouver avec ta grand-mère. Et ma grand-mère, je venais lui porter un petit vase avec des fleurs. Je venais lui porter des fleurs que je venais de cueillir. J'allais chercher de l'eau. Je sortais dans le couloir, je rentrais et elle voyait une autre personne. Parce qu'à l'époque, j'étais avec mon nom de baptême, Marie-Hélène. Donc je rentrais, elle disait « Bonjour Marie-Hélène ». Je ressortais, elle me donnait un autre nom. Et le nom qu'elle me donnait, je le connaissais. La personne qu'elle voyait, je la connaissais.
C'est étrange, effectivement.
Tu vois, c'est étrange. Et je me disais « Mais tais-toi. Tu vas te faire enfermer ». Et puis j'ai vécu comme ça, avec cette perturbation de devoir garder pour moi ces visites dans des fréquences extraordinaires. Donc je visitais le champ sans problème. Et puis, à l'âge de 12 ans, ma mère va voir un magnétiseur parce qu'elle souffrait beaucoup, beaucoup du dos, de sa colonne vertébrale. Et ce magnétiseur dit à ma mère, « Il faut absolument, vous avez une fille, il faut absolument qu'elle vienne me voir. C'est urgent pour elle. Amenez-la moi. » Et là, je suis terrorisée. Il y en a un qui m'a dévoilée. Qu'est-ce qui va se passer? Et j'y vais parce qu'en même temps, je sens, malgré la peur, parce que j'étais donc dans cette hypersensibilité, et je me dis, mais s'il sait, peut-être que... Allons voir. Et donc, je vais le voir. Et le choc de la rencontre fait que des cailloux tombent d'un plafond en bois. Et...
Quand tu dis ça, c'est...
Une matérialisation. Trois petits cailloux blancs tombent du plafond en bois. Il attrape ma mère, il la jette presque dans une pièce, il ferme la porte. Et là, j'ai peut-être pleuré parce que il me prend dans ses bras et il me dit « Tu n'es pas folle ». Et là, ouf, des litres d'eau et de peur qui... Ah, une respiration qui revient... Quelqu'un qui me dit que ce que je vis, que lorsque j'ai un grand choc comme ça, je peux matérialiser des choses. Ah, je suis plus toute seule. Quelque chose se... Ouf. Tu vois? Et à partir de là, il me dit, bon, t'es encore à l'école, on va travailler par télépathie. Parce que tu conduis pas, tu peux pas venir quand tu veux. Donc à chaque fois que tu as besoin de moi, il suffit que tu penses à moi d'une certaine manière et je suis avec toi. Et effectivement, je me mettais à bâiller, il était là. Et pendant des années, il m'a suivi. Il m'a aidé à passer mes examens, etc. etc.
Alors quel était son rôle?
Alors, son rôle, c'était quelqu'un qui, probablement lui aussi, vivait caché. Parce qu'il m'a jamais vraiment expliqué ce qu'il vivait et qui il était. J'étais une gamine, j'avais 12 ans. Mais nous nous rencontrions dans une autre dimension du champ. Et nous étions dans un amour et dans dans une espèce d'unité vibratoire qui faisait qu'ensemble... Quelque chose à l'époque que je ne pouvais pas vraiment nommer, mais quelque chose s'accomplissait, des choses s'accomplissaient. Et ça m'aidait à vivre. Mais j'avais cette espèce de mal-être de me dire, mais qu'est-ce que je fous? Qu'est-ce que je fous dans ce monde? Je ne comprends pas. Alors j'ai été évidemment vers des ésotérismes. Qu'est-ce que tu veux? J'ai cherché comme j'ai pu. Donc des ésotérismes... que j'appelle aujourd'hui plutôt d'économaniaque qu'autre chose, parce qu'à l'époque, c'était quoi? C'était des gens qui cherchaient des pouvoirs, qui cherchaient des choses comme ça. Ça ne me plaisait pas, c'était pas ça. Puis je suis partie faire mes études. À 17 ans, j'ai eu mon bac et je suis partie à Bordeaux, à la fac de lettres. Et un jour, je rentre dans une librairie ésotérique. Et je sens quelque chose qui se met à cogner dans ma poitrine. Bon, quelque chose qui m'appelle. Alors je cherche Et je ne le vois pas. Dans les livres, je ne le vois pas, je le vois pas. Mais ça m'appelait. Un livre m'appelait. Et boum, boum, boum. Qu'est-ce que c'est ça? Ça te cogne dans mon corps. Qu'est-ce que c'est ça? Et je dis à la dame, écoutez, c'est dans ce rayon, mais je ne le vois pas. Oh, elle me dit, mais c'est parce que j'ai tellement de livres que j'ai deux rangées. Et j'ai une rangée derrière. Alors, elle sort les livres qui sont devant. Et là, je me mets à trembler. Et elle sort un livre. Je dis, c'est celui-là. Elle sort un livre, j'ouvre le livre et je vois des lettres hébraïques. Je ne sais pas ce qui se passe. Heureusement que j'étais assise. J'ai mes côtes qui ont commencé à craquer, à s'ouvrir. Ma cage thoracique s'est ouverte. Je me suis sentie très, très mal. Je suis devenue toute blanche. Elle m'a dit, elle ne me connaissait pas. Enfin, elle me connaissait parce je venais dans sa librairie. Mais voilà, je n'avais pas vraiment contact, j'avais dû peut-être venir une ou deux fois, pas plus. Et elle me donne un verre d'eau, elle m'assoit. Et elle savait que j'avais pas un rond. Dingue quand même. Elle me dit, prends le livre, regarde-le et tu me le ramènes demain. Mais j'ai pas pu. Je suis rentrée chez moi, j'ai essayé d'ouvrir le livre. À nouveau, toutes les côtes qui craquaient, mais physiquement. Et c'était tellement douloureux que j'ai dit, je ne suis pas prête, je ne peux pas. Je referme. Je lui rends le livre. J'arrive à 22 ans et le matin du 22 août.
22 ans, le 22 août.
Oui, 1982. Si. J'ai fait de la numérologie après, mais bon, le 2, là, il était vraiment très présent. Et je me coiffe, j'étais chez mes parents. Je venais de rentrer de Bordeaux, j'étais en transition, je venais d'ouvrir une librairie. Et je décide d'aller voir des amis. J'avais des cheveux très très longs, jusqu'aux fesses, et je dis, oh, il faut que je fasse une tresse aujourd'hui, il faut que ce soit pratique. J'allais m'habiller d'une certaine manière. Ah non, 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 il faut que tu mettes une robe large, il faut que ce soit pratique. Bon. dans ton sac, mets certaines choses, là, tu vas en avoir besoin. Ah bon? Donc j'écoute, toc, 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 et je me prépare.
C'est comme une voix de parler.
Voilà. Et quelque chose se prépare. Et je sens que c'est une journée, quelque chose se prépare. Et je dis à ma mère, ne me laisse pas partir. Elle me dit, tu as toujours fait ce que tu voulais, je suis vraiment mal barrée pour te dire de ne pas partir, ça ne va pas marcher. Et je lui redis une deuxième fois, tu devrais me dire de rester. J'ai autre chose à faire que d'aller contre ta volonté. Bon, je prends ma petite voiture et je vais voir mes amis. Et ce jour-là, ils habitaient dans une forêt où il y avait un lieu druidique. Et ce jour-là, je leur dis, il faut absolument que j'aille me charger là, dans ce lieu. Pourquoi ? Bah, il faut que j'y aille. Et je prends de l'énergie, je prends de l'énergie, je prends de l'énergie, je prends de l'énergie. Je rentre le soir. Et au lieu de rentrer directement chez mes parents, je décide d'aller prendre l'apéro chez des amis. En me disant, ne le fais pas, mais il faut le faire. Ne le fais pas, mais il faut le faire. Et là, gravier non signalé, je dérape, pas un truc grave, juste je dérape, je cogne contre un poteau téléphonique, formidable idée, je pète tout le moyen de communiquer du quartier, et je me retrouve par le choc avec le pied gauche presque sur le coussin de droite. Et je sens que c'est pété. La bouche en sang, je me suis donné un coup, je n'avais pas ma ceinture de sécurité, voilà. L'accident par lui-même, et j'entends, on y est. Robe large, pratique, je décide de me remettre moi-même la jambe en place, parce que je sais contrôler la douleur, celui qui va le faire, il va me faire mal. Donc je remets ma jambe en place. Je prends tout ce que je peux comme mouchoir pour arrêter l'hémorragie de la figure. Et je dis, bon, ben maintenant, j'attends. Et je sens toutes ces présences que je connais depuis des années, qui me disent « Ne t'inquiète pas, on y est. » Et ça continue à dire « C'est là. » Les pompiers arrivent. Le pompier me dit « Mais comment vous avez remis votre jambe en place toute seule ?»« Oui, vous inquiétez pas. Comme j'ai vu que j'étais contre un ravin, vous n'auriez pas pu la remettre en place. Donc j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Maintenant, vous me sortez et hôpital. » J'arrive à l'hôpital et on me dit « Bon, ben, on va vous anesthésier. Vous allez avoir une opération. On va vous enclouer le fémur par le col du fémur, etc. etc. » Et donc, je ne me souviens pas exactement de la date, mais le lendemain ou le surlendemain, opération prévue. Anesthésie, et là, accident cardiaque, et la tension qui tombe, et à 4, le cœur qui monte, et ça fait un clash, coma.
Et tu es toujours consciente.
Alors non, là, voilà ce qui se passe. C'est que moi, j'étais persuadée que ce coma avait duré 3-4 heures. Et ma mère m'a dit il y a quelques années, « Mais non, ma fille, regarde, j'ai marqué dans un carnet, ça a duré 10 à 12 heures. » Et donc là, je pars dans le champ que je connais. Mais il se passe quelque chose de terrible. C'est que ce qui part dans le champ arrive à un moment donné à une espèce de frontière qui ressemble à la fois à un mur et à une trame, à un filet, comme une grille. Et là, donc 22 ans, passe dans le crible. Bah, l'ego se casse la gueule. Qu'est-ce qui reste de Marie-Hélène ? Pas grand-chose. Et là, je me dis, mais oh, une vie pour rien. Toutes les croyances se cassent la gueule. L'idée de moi se casse la gueule. Des bibliothèques entières se cassent la gueule. Mon savoir se casse la gueule. Qu'est-ce qui reste ? Je vis une des corporations, mais je savais faire du voyage astral. Donc, au lieu de faire tout le trajet que les gens décrivent, le tunnel, le machin, moi ça se fait comme ça, en un claquement de doigts, et je me trouve dans le champ, en train de visiter des sphères, et puis tout d'un coup, il se passe quelque chose de terrible, je reviens, il ne reste rien. Perte de mémoire. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui reste quand il ne reste rien ?
Nous sommes des êtres de mémoire, nous l'oublions pas.
Voilà. Alors, quelques jours après, madame, il faut quand même qu'on répare votre... mademoiselle, plutôt, qu'on répare votre fémur. On vous réanesthésie, c'est juste que vous étiez trop dans l'émotion ou qu'il y a eu un problème. On remet ça. Bingo.
Alors, ce que je vais te proposer, Marie-Hélène,
oui,
c'est de réserver ça pour une seconde
très bien
émission.
Très
merci
bien.
Merci beaucoup. Marie-Hélène, Jordan, merci. On salue à la technique Georges Soupeau et Robert Hummel qui mettent en onde cette émission et on se retrouve très vite pour la suite de ce récit passionnant.
Merci Patrick.